ça se définit à partir du moment où on peut pas s'en empêcher. C'est-à-dire que la bonne buveuse, elle était capable de passer une semaine de vacances, enfin n'importe où, hein, où il n'y avait pas d'alcool, et puis je me posais pas la question. L'alcoolisme est venu pour moi, et c'est là où je m'en suis rendu compte, c'est là, ce soir, s'il n'y en a pas à la maison, ça va être un problème.
Virginie est alcoolique, n'ayant pas peur des mots. Elle-même n'a plus peur d'en parler. Virginie participe aux réunions des alcooliques anonymes, un mouvement d'entraide créé en 1935 par un ancien courtier nord-américain. Il a fallu attendre 1960 pour que le mouvement s'installe en France. Les alcooliques anonymes français ont fêté en novembre dernier leurs 60 ans. Aujourd'hui, il existe 600 groupes de AA, comme les initiés les appellent. Il y en a dans tout le pays, même en prison, même dans les hôpitaux. À chaque fois, les réunions se déroulent de la même façon. Elles durent 1h15. L'anonymat est la règle, la bienveillance aussi.
Je n'ai jamais eu vraiment de relation humaine, de bienveillance, d'entraide, etc., avant de venir aux alcooliques anonymes.
Chez les alcooliques anonymes, on traite l'alcoolisme pour ce qu'il est, une maladie et non pas une tare, une faiblesse ou un vice. Et comme dans toutes les maladies, il y a les moments de victoire et les rechutes.
Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai rechuté assez sévère. J'ai eu un premier miracle, j'en espère un second. Pourquoi j'ai rechuté, j'en sais rien du tout. Toujours est-il qu'il faut que j'arrête parce que j'ai quand même peur.
Il existe deux types de réunions chez les alcooliques anonymes. Celles exclusivement réservées aux membres du mouvement et celles ouvertes aux proches et à la famille. C'est dans ce cadre-là que Vanessa Descoureaux a été autorisée à tourner ce reportage. Pendant toute l'année 2020, une année si particulière avec la pandémie, elle a assisté une fois par mois à la réunion du lundi après-midi à Neuilly-sur-Seine, une ville bourgeoise de l'Ouest parisien. Cette maladie qu'est l'alcoolisme touche toutes les catégories de la population. Un an auprès des alcooliques anonymes, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux, diffusé une première fois en octobre dernier.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Janvier 2020. Nous sommes à Neuilly-sur-Seine, quartier très riche, très chic de l'Ouest parisien. Et là, on cherche une salle prêtée par la mairie qui héberge la réunion des alcooliques anonymes de Neuilly. La réunion du lundi après-midi. Classe 5, capacité 28 personnes. C'est ce qui est écrit sur la porte qui porte le logo AA, alcoolique anonyme.
Oui.
Bonjour Vanessa.
Bonjour,
vous
allez bien?
Ah, par contre, j'ai pas été voir les
dernières nouvelles. Personne n'est parti.
Alors, bon.
Ah, surtout pas nous. Mais nous, on a l'avantage, c'est que nous le savons.
Et bonne année, parce que
je me suis aperçue que je n'avais pas
fait. Moi non plus, je t'ai pas vu.
Et j'ai pas pu.
Ah non, mais j'ai
été. Petite fin d'année un petit peu chaude.
Oui, on a cru comprendre.
Chaude.
Oui.
Je vais mettre à côté de la modératrice pour commencer.
Quel est votre prénom?
Françoise.
Françoise, vous allez modérer cette réunion. C'est quoi une modératrice?
Alors, une modération, c'est essayer de faire en sorte que la réunion se déroule bien pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de faire parler chaque personne. Les gens ne parlent pas tous ensemble. Hein. On se donne tous la parole à tour de rôle. On ne parle en principe qu'une fois. Et il y a un thème qui est choisi. On s'exprime sur le thème en question ou sur tout autre sujet qui nous tient à cœur. Parce que le principal, c'est de faire en sorte que chacun aille mieux en sortant de la réunion qu'il ne pouvait aller même en entrant dans cette réunion. Donc ça doit nous apporter un petit plus. Et le petit plus, c'est toujours une surprise parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans une réunion. Chaque réunion, pour moi, est un cadeau.
C'est quoi le thème aujourd'hui, choisi ?
Aimer tout le monde.
Waouh, et on n'a qu'une heure quinze pour ça ?
Vaste sujet, on est bien d'accord.
Ben, bonne réunion, madame.
Merci.
Myriam, alcoolique.
Je me plaignais beaucoup.
J'avais l'alcool mauvais, en fait.
T'as fait une grosse connerie.
C'est à moi que ça faisait du mal. Ça me rend fragile.
Je vais bien, j'ai pas consommé d'alcool jusqu'à aujourd'hui.
J'ai peut-être gagné un respect universel, on va dire.
Ça me montrait que c'était quelque chose qu'on pouvait rire de ça.
Parce que moi, j'ai pas du tout envie de picoler.
Enfin, voilà.
Voilà.
Le rituel des réunions est immuable. La méthode des alcooliques anonymes est lue. Ce sont 12 étapes que les membres connaissent quasiment par cœur. Un thème est donné, il faut demander la parole, ne jamais couper une intervention. Ce jour-là, la réunion est très largement féminine, il n'y a que 2 hommes dans la salle.
Bonjour mes amis, je m'appelle Jean-Louis, je suis alcoolique. Alors, aimer tout le monde. Moi, quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, je n'aimais personne. La famille d'où je viens était une famille, bon, je m'en rends compte maintenant, anormale, où il n'y avait pas d'amour, il n'y avait que des sentiments négatifs, du mépris, du rejet. Il n'y avait aucune solidarité. Voilà, et quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, moi je détestais profondément mes parents. Et ça m'a poursuivi jusqu'à ce que je vienne aux Alcooliques Anonymes. Vis-à-vis du monde extérieur, j'avais beaucoup de peur, beaucoup de ressentiment aussi. Par exemple, je l'ai déjà dit 50 fois, mais j'avais beaucoup de ressentiment vis-à-vis de la RATP. Parce que les bus, les tramways, les RER, etc. ne voulaient pas m'attendre quand j'arrivais. À l'époque, je ratais le bus, j'allais au bistrot du coin prendre un demi pour me calmer. Voilà, j'avais peur des gens. Je n'ai jamais eu vraiment de relation humaine, de bienveillance, d'entraide, etc., avant de venir aux Alcooliques Anonymes. Alors, j'ai eu une fille, quand même, qui a longtemps été la seule personne avec qui j'ai eu une relation vraiment humaine. Mais une relation de père à enfant. Voilà, donc en arrivant aux Alcooliques Anonymes, j'ai découvert que bon, je n'avais pas besoin d'être parfait pour qu'on m'aime. Pour moi, le programme des Alcooliques Anonymes, ça consiste, c'est un ami qui l'a dit, je trouve la formule excellente, ça consiste à calibrer mon ego, à le remonter dans certains cas, à le redescendre dans d'autres. Je vais réfléchir maintenant à ce que je viens de dire.
Merci Jean-Louis.
J'invite ceux qui le souhaitent à se joindre à moi pour la prière de la sérénité.
C'est comme ça que se terminent toutes les réunions.
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je veux et la sagesse d'en connaître la différence. Merci.
Merci. 1h15, très précisément. C'est la durée de cette réunion. La première fois que j'ai rencontré Virginie, elle ne voulait pas me donner son numéro de téléphone, pas forcément intéressée par un témoignage. Et puis, à la fin de la réunion des Alcooliques Anonymes à laquelle elle assistait, elle est revenue vers moi pour me dire « Si au final, voici mon téléphone, rappelez-moi et on va discuter plus en longueur parce que ça peut peut-être aider des gens qui ont traversé la même chose que moi. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va la rencontrer, Virginie, chez elle, dans l'ouest parisien, dans une très jolie rue au bout de laquelle on voit la Tour Eiffel. Aujourd'hui, Virginie, ça fait 11 mois que vous n'avez pas bu. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous sentez complètement guérie ou est-ce que vous vous sentez encore un peu fébrile par instant? Est-ce que l'idée de rechute est encore dans votre tête?
Alors, oui. Moi, je me sens pas guérie. Je me sens toujours alcoolique. Abstinente, mais alcoolique. La rechute me fait très peur parce que pour l'avoir vécu au bout de 2 mois, je sais que la rechute est pire qu'avant. Donc oui, ça me fait toujours peur. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours besoin de Néa. À la fois par besoin pour maintenir mon abstinence et puis à la fois aussi par plaisir. Parce que j'y retrouve des ressources, des échanges que j'aurais pas avec d'autres personnes.
Vous avez appris quoi d'autre dans ces moments-là d'échange?
J'ai appris beaucoup l'écoute. J'ai appris à pleurer. Pas forcément en réunion, le plus souvent après. Ce sera peut-être la deuxième phase. J'ai toujours été quelqu'un qui, avant, on encaisse. On encaisse, on endure. Que ce soit pendant le pensionnat, pendant mes études et tout, ou après pendant ma vie conjugale. C'est, tant qu'à, c'est. Pas tu fermes ta gueule, mais limite. Et si t'y arrives pas, ben voilà, j'avais trouvé l'alcool. Et là, j'apprends à dire bon, ben, t'apprends, t'as le droit d'être faible. C'est dur à accepter. Et finalement, on s'aperçoit que, ben oui. Et puis, en acceptant ça, on comprend aussi mieux les autres, que eux aussi peuvent avoir des faiblesses, que. Mais apprendre qu'on n'est pas des warriors tout le temps.
Le droit à être soi, alors.
Voilà. Exactement.
Pas d'alcoolique dans votre famille, vous l'avez dit, Virginie. Enfin, une famille qui consomme de l'alcool normalement, on va dire, mais pas de problème d'alcoolisme.
Non.
Bonne buveuse, disiez-vous, quand vous étiez jeune étudiante, et ensuite alcoolique. C'est quoi la différence entre une bonne buveuse, qui était jeune et qui aimait faire la fête, et l'alcoolique que vous avez été à un moment donné dans votre vie?
Ça se définit à partir du moment où on ne peut pas s'en empêcher. C'est-à-dire que la bonne buveuse, elle était capable de passer une semaine de vacances, enfin n'importe où, hein, où il n'y avait pas d'alcool, et puis je ne me posais pas la question. L'alcoolisme est venu pour moi, et c'est là où je m'en suis... Enfin, mes parents s'en sont rendus compte, et après, moi, je m'en suis rendu compte, c'est... Là, ce soir, s'il n'y en a pas à la maison, ça va être un problème. Ce soir, je rentre, il me faut au moins 2 verres de vin blanc avant 6 heures, avant que mon ex y rentre du boulot. Parce que je vais pas supporter la soirée si j'ai pas ça. Et le deuxième stade, c'est il t'en fout parce que tu commences à trembler, t'as un effet de manque purement, comment dire...
Physique.
Physique, oui. Comme moi, c'était un besoin, c'était un anxiolytique pour moi. Par rapport à la violence que je vivais à la maison. Donc, je le vivais comme un besoin anxiolytique et pas comme un besoin d'alcool.
Est-ce qu'on supporte mieux les coups quand on est un peu bourré,
oui.
En gros, ouais.
Oui. Parce que c'était moins violent, finalement, sous l'alcool.
Au bout de plusieurs années, vous décidez de partir, de quitter cet ex-mari violent. Pour autant, vous n'arrêtez pas l'alcool tout de suite.
Non. Non, j'ai cru que ça allait être un déclic, c'est-à-dire, puis j'ai fait ses 48 heures de garde à vue, il est parti de l'appart et ça y est, c'est fini. Et en fait, non, l'alcool est plus sur moi que ce que l'on pense. Cet ex-mari a sûrement été un déclencheur. Mais peut-être que j'aurais été alcoolique sans lui. Et puis que c'est tout un travail à faire sur moi, quoi.
Qu'est-ce qui serait pour vous le signe ultime que la maladie est guérie?
Alors, elle sera jamais guérie, pour moi. Je pense qu'elle pourra être le signe ultime, c'est le jour où je pourrai aller acheter une bouteille de champagne ou de vin blanc et l'offrir à quelqu'un. Aujourd'hui, non. Je ne peux pas y toucher. Et je sais que je ne veux pas passer dans le rayon. J'avais il y a un casino à côté de chez moi. Et pendant très longtemps, je ne voulais pas aller faire mes courses d'eau. Parce qu'ils avaient le vin blanc et l'épargne en même temps. Bon, alors, je bois beaucoup de l'épargne maintenant. Et ils les avaient mis l'un en face de l'autre. Et c'était terrible. Je prenais quelqu'un pour aller faire mes courses d'eau. Pour être sûre que je ne sois pas tentée.
Aujourd'hui, 11 mois plus tard.
11 mois plus tard, donc ils ont revu le rayon, je suis tranquille. Et non, maintenant ça ne me pose aucun problème.
Il a fallu d'abord venir sans micro, une première réunion pour prendre contact. Il y a de nouveau des hommes d'une soixantaine d'années, l'un est sous, il est accompagné de sa fille. Elle ne lui lâche pas la main et le supplie d'écouter quand il montre très clairement qu'il n'a aucune envie d'être là. L'autre est sobre. Il jure que son problème à lui, c'est le travail. Quand il en a trop, il boit. Quand il n'en a pas assez, il boit. Aucun des deux n'est revenu en notre présence. Les alcooliques anonymes ont l'habitude de voir de nouvelles têtes arriver, comme ce jour-là de fin janvier.
Salut les amis, je m'appelle Fred, je suis alcoolique, je vais modérer cette réunion. Donc je vais vous demander de mettre vos portables hors d'état de nuire, s'il vous plaît. Et je suis à moitié au courant, mais j'avais demandé si on avait un nouvel ami parmi nous. Donc je vois que c'est le cas. Je vais te demander ton prénom, s'il te plaît.
Je m'appelle Jérôme.
T'appelles Jérôme. Ok, d'accord. C'est la première fois, donc toute première fois que tu viens aux Alcooliques Anonymes. Très bien. Bah, écoute, moi je te donnerai la parole à la fin de la réunion, si tu veux t'exprimer hein, ou pas. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup.
Le thème du jour est libre de toute culpabilité.
Merci pour votre accueil. Oui, je vais revenir, hein, je partirai pas en courant. Je suis très impressionné par votre avancée spirituelle. Dieu, pas Dieu, on s'en fout, franchement. Mais je suis super loin, là, donc il va falloir que je revienne. Clairement, parce que... Alors moi, j'ai beaucoup lu, dont un qui me servait de livre de chevet. Je me suis dit, avec lui, j'y arriverai tout seul. Et puis, je suis là, qui est avec les alcooliques anonymes de Kessel. Et lui, il dit tout simplement exactement ce que vous venez de dire, Anne, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, Anne. C'est une maladie, c'est de naissance, donc c'est comme ça, c'est pas juste. Et c'est pour ça que je suis absolument, enfin, je crois que je suis quand même tous d'accord pour dire que la culpabilité, enfin, il en est pas question, puisque c'est une maladie que ça nous est tombé dessus, quoi. On va pas culpabiliser d'avoir le cancer. Donc voilà. Voilà ce que... mes premières impressions, donc je suis très impressionné que vous arriviez à philosopher par rapport à ça, parce que moi, je suis encore en colère, vous voyez, contre cette maladie qui me touche moi et je trouve pas ça juste. Donc je suis en colère contre cette maladie, je suis pas du tout en face de quelle culpabilité. Ça viendra, je pense que ça viendra plus tard. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
Je vous invite à vous joindre à moi, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, pour la fameuse prière de la sérénité. Je disais le plus grand bien tout à l'heure. Alors, qui commence ?
Mon Dieu,
donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Merci !
Là, ça m'écorche même plus la bouche.
Je peux le dire.
Le fondateur des Alcooliques Anonymes hocha légèrement son mince et fier visage aux paupières bridées, aux cheveux blancs. « Je connais un groupe, continua-t-il en riant, où dans les réunions hebdomadaires sont assis côte à côte un sénateur, une dame de haute renommée pour sa petite vertu, un prêtre catholique, le président de 5 grandes banques, un magistrat et un ancien tueur d'Al Capone. Nous accepterions le diable lui-même s'il était alcoolique et s'il avait besoin de nous, dit Bill, le fondateur des AA. extrait d'Au cœur des alcooliques anonymes de Joseph Kessel, 1960.
Alors ça c'est la petite liste des réunions en Île-de-France. Ça c'est...
Alors justement, ici c'est tous les premiers lundis du mois, comment ça se passe?
Non, tous les lundis à 14h30.
Tous les lundis à 14h30?
Tous les lundis à 14h30, sauf les jours fériés.
D'accord.
Alors quand il y a marqué ouvert... Parce que sur certains documents, il y a marqué « ouvert ».
Oui, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde.
Voilà, et, sinon... et que Vanessa peut être là.
Et c'est marqué « fermé ».
On est entre nous.
C'est-à-dire ?
Que des alcoolos.
Ah d'accord, donc je peux venir quand même.
Bah, je sais pas, t'es alcoolo ?
Bah, pas encore. Mais j'ai l'impression que c'est...
Mais il n'y a que toi qui peux le dire,
oui,
alors
je
tu
sais,
te reconnais
compris,
ou pas.
Oui, non, mais, c'est ton travail, ça aussi.
Oui, mais on a le temps, hein.
Oui, oui.
On a le temps, puis tu es jeune, donc...
Oui.
Alors voilà, un certain nombre de petits documents, ça c'est un truc assez précieux. Hein. Et derrière, il y a un petit truc, il y a mon numéro de téléphone au cas où. Et si je donne mon numéro de téléphone, c'est pas pour qu'on m'appelle pas, hein, c'est pour qu'on m'appelle. Parce que si je veux pas qu'on m'appelle, je donne pas mon numéro de téléphone. Avant, c'est mieux. Avant, c'est mieux. Il y a aussi le numéro de téléphone de la permanence téléphonique. C'est arrivé comment ici? Ici précisément?
Parce que j'habite à côté.
D'accord. Et tu as été voir sur internet?
Ouais.
D'accord. Ça, c'est...
Tout à fait franc, j'ai appelé la clinique de Boulogne là. J'ai dit donnez-moi des informations, je voudrais en savoir plus. Et puis je suis tombé sur une secrétaire qui m'a dit il faut remplir la fiche d'admission et puis on vous attend lundi prochain. J'étais pas du tout préparé, moi, à passer une semaine tout de suite là à l'hôpital, quoi. Donc j'ai dit oh là là. Bizarre, hein?
Je sais pas.
J'avais besoin d'informations. Je suis pas. Je trouvais ça bien.
Pas demandeur.
Bah non, pas d'une hospitalisation. Enfin, je trouve ça bizarre quand même. Ça arrive à d'autres, non?
Je sais pas. Moi, nous, on n'est pas.
Ah, vous avez jamais fait cette démarche-là non plus?
Moi, j'ai jamais été hospitalisée. Non. Quand on va dans un lieu de soins médicalisés, on t'aide à arrêter de boire. D'accord? Ici, le but, c'est pas d'arrêter de boire, c'est d'apprendre à vivre sans alcool. C'est pas du tout la même chose.
D'accord.
Tu réfléchiras à ça.
Non, mais je comprends.
Parce qu'arrêter de boire, t'as jamais arrêté 15 jours?
Bah, si, bien sûr.
Eh ben voilà.
Mais plus que
donc,
ça, mais...
le but, c'est pas d'arrêter 15 jours.
C'est justement d'arriver à venir.
Le but, c'est de ne pas reboire. C'est arrêter de boire, c'est juste la...
Oui, c'est facile, ça.
Non,
ça
c'est pas si facile. Enfin, moi, j'ai pas eu si... Ouais. C'est pas été si facile pour moi. Ouais. Moi, j'ai mis des années avant d'arrêter. Mais c'est la clé dans la serrure. Bravo. Ah non, mais après, ça se fait tout doucement. Hein, mais voilà. Ici, je viens à mes séances de gymnastique spirituelle.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est bien, ça. C'est bien, ça, comme image.
Oui. Et alors, on ne s'inscrit pas, tu as vu, on t'a rien demandé. Tu as dit que tu t'appelais Jérôme. C'est possible, hein, mais je ne vais pas aller vérifier.
Non, je n'ai pas menti.
Bah oui, mais...
Aujourd'hui, je n'ai pas menti.
Voilà. Non, mais enfin, on ne va pas te demander ton adresse, ce que tu fais dans la vie, etc. Nous, tu es Jérôme alcoolique.
Je n'ai pas de problème de... Enfin, je l'assume. Le déni, c'est quelque chose que j'ai réglé, là, le déni.
Bah, oui,
ça a été compliqué.
Si tu es là, bah,
mais voilà, le déni,
c'est un cheminement. C'est un cheminement. On n'arrive pas ici comme ça. Oh, tiens, si j'allais aux alcooliques anonymes. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est
une
prise de conscience. Enfin, c'est long. C'est pas de la tarte. Hein.
Bon.
Après le déconfinement, quand le pays croit encore à un possible retour à la normale, coup de fil de Jérôme. Il a bu, à nouveau. 4 mois sans rien, un confinement irréprochable, pas une goutte d'alcool, et une fin d'après-midi ensoleillée, il replonge dans l'alcool et dans la culpabilité. Nous n'avons jamais revu Jérôme à une réunion du groupe de Neuilly.
Interception. Sur France Inter.
Les alcooliques anonymes font la quête à la fin de chacune de leurs réunions. C'est une manière pour eux de se financer. Car pour préserver leur indépendance, le mouvement n'accepte ni les subventions publiques, ni les dons privés extérieurs. Autre incongruité pour les profanes, les références à Dieu sont nombreuses au cours des réunions, notamment la prière de la sérénité que l'on vient d'entendre. Le mouvement a été créé aux États-Unis et cette empreinte religieuse vient de là.
Alcoolique
Alcoolique Anonyme, bonjour.
Nous retrouvons Vanessa Descoureaux dans un local du 5e arrondissement de Paris. C'est ici que les Alcooliques Anonymes tiennent leur permanence téléphonique. Le groupe de Neuilly-sur-Seine y vient une fois par mois pour écouter les autres alcooliques ou leurs proches qui appellent ce numéro d'urgence.
Hier, une réunion tous les mercredis à 20h. Vous savez comment ça se passe ? D'accord. Ça vous va ? Au revoir.
Philippe, vous tenez des permanences téléphoniques à peu près 3 ou 4 fois maximum dans le mois. Oui. Quand les gens vous appellent, vous savez jamais ce qui se passe derrière pour eux, ou parfois vous avez des retours, des gens effectivement qui tiennent à vous faire savoir qu'ils y sont arrivés, qu'ils ont posé la bouteille. Quel retour vous avez ?
Ben, récemment, j'ai eu un retour parce que c'est quelqu'un qui a appelé très régulièrement pendant un an et demi avant d'aller en réunion, oui, qui a dit « Ah, je suis content, j'ai trouvé du travail, je fais un stage, je fais... » Il a appelé, je crois qu'il continue à appeler de temps en temps.
Mais pour dire que ça va.
Que ça va.
Vous voulez des renseignements?
C'est extrêmement rare.
Parce que je sais que si ce soir je prends une gorgée d'alcool, je rechute. Ah, il y a de très 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 fortes chances que je rechute. Donc je sais que je ne toucherai pas à première gorgée du premier verre.
C'est plus qu'une envie, c'est un besoin.
Voilà.
C'est un besoin, c'est pas une envie. C'est mental.
Alors oui, moi j'ai eu des problèmes relationnels. Je divorçais, donc bon voilà, avec un mari qui était violent. Donc bon, chacun a sa vie, hein, chacun a la raison pour laquelle on est tombé dedans à un moment ou à un autre. Voilà. Après, moi j'ai une amie qui ne cesse de répéter, si t'as un problème et que tu bois, t'as deux problèmes. Sans être une secte, on se parle avec des mots qui nous parlent.
Jean-Claude, ça fait combien de temps, vous, que vous assurez des permanences régulières ici ?
Quasiment depuis le début, mon arrivée aux Alcooliques Anonymes, c'est-à-dire qu'on m'a donné tout de suite du service. Puis petit à petit, bon, maintenant, en plus, avec une certaine ancienneté d'abstinence, donc je suis un peu plus sûr de moi, sur le plan alcool, quoi, hein, voilà. Donc la permanence, effectivement, c'est de tenter de donner ce que j'ai reçu, quoi.
Avec plus d'assurance aujourd'hui dans vos conseils, dans vos orientations.
Voilà, c'est ça. Maintenant, par exemple, quand une personne me téléphone pour leur dire que quelqu'un de son entourage, bah, mari, copine, enfin bref, tout ça, des problèmes avec l'alcool, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Au début, je ne savais pas trop quoi répondre. Et puis maintenant, bon, je sais très bien que... J'interroge, est-ce que la personne veut arrêter de boire ? Est-ce qu'elle admet qu'elle est alcoolique ? Je leur explique que tant que la personne ne veut pas reconnaître sa maladie, ne veut pas cesser, elle ne pourra pas faire grand-chose, quoi. Rien faire, même, au demeurant.
Est-ce que vous avez vous-même appelé les Alcooliques Anonymes, oui, quand vous étiez dans l'alcool ? Vous avez été de l'autre côté du téléphone ?
C'était très curieux. En fin de compte, nous étions encore mariés. Un jour, ma femme me dit, mais pourquoi tu ne vas pas aux Alcooliques Anonymes ? J'ai dit, c'est les Alcooliques Anonymes, c'est catho, c'est presque une secte et tout, même si... Enfin, pour éviter de lui répondre positivement, j'avais outré un peu les propos. Elle me dit, en plus, il y a une réunion là, qui se tient le mardi. Alors, c'était juste à 200 mètres de chez nous, à cette époque, dans le 20e. Et je lui dis, mais comment tu sais tout ça, toi ? Ben, elle me dit, je me suis renseigné, j'ai téléphoné à leur permanence. Alors, je vais voir. Alors donc, le lundi, j'ai téléphoné ici, et je tombe sur une... Je n'ai jamais réentendu cette voix. L'accent très parisien, pas du tout l'accent parisien façon Arletty. atmosphère. Ouais, c'est ici, les Alcooliques Anonymes. Visiblement, elle était bourrée. Ouais, quelle réunion, tu dis, Alexandre Dumas. Ouais, c'est le mardi, 20h45. Bon, merci. Pas de quoi. Et voilà. Donc, je suis allé à cette réunion. Et miracle. Première réunion, j'ai arrêté de boire. Jamais compris. Non, non, c'est peut-être que je suis devenu humain, tout simplement.
Quand vous êtes ici, à la permanence téléphonique, qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui vous émeut le plus? Les appels d'alcooliques, toujours dans l'alcool, ou les appels de proches? Plus dans le désespoir et dans le besoin
proches,
d'aide.
Les proches, je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné parce que je ne peux pas faire grand-chose. Un alcoolique anonyme, à lui, je peux même l'engueuler. D'ailleurs, il y en a certains, je m'en prive pas. Quand ils sont bourrés, je leur dis, essayez de cuver et puis vous revenez après, quoi. Et alors que les proches, en plus, c'est vraiment très douloureux parce que je revois ma mère, je revois certaines personnes face à l'alcoolisme, soit de leur conjoint ou d'un ami, quoi. Mais ça, c'est très dur, ça. En général, si je suis avec quelqu'un, je le repasse, quoi. Ah. Ouais. On va vous laisser à la maison, hein.
Voilà. Moi, je reste une heure seulement.
Allez, t'as l'habitude de faire vous, c'est bon.
Ciao.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, au moment où la situation sanitaire se dégrade fortement, où la pression sur nos hôpitaux et nos soignants s'accentue, tout notre engagement, toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression du virus.
La vie sous cloche pendant 15 jours au moins, 67 millions de Français confinés pour contenir le coronavirus.
Le mot d'ordre est clair, restez chez vous.
France Inter.
Nous sommes à la mi-avril, déjà un mois de confinement dans la crise sanitaire liée au coronavirus. Et devant nous, il y a encore au minimum un autre mois. Ce printemps, en temps normal, mais il n'y a plus grand-chose de normal en ce moment, mais ce printemps, nous aurions dû rencontrer Nicolas. C'est un chef d'entreprise suisse qui vit en France depuis de très nombreuses années. Et nous allons donc réaliser l'interview dans les règles de ce qu'on appelle désormais la distanciation sociale. Bonjour Nicolas.
Oui, c'est qui?
C'est Vanessa de France Inter.
Ah, salut, ça va?
Nicolas, si on se parle au téléphone, c'est parce qu'effectivement c'est compliqué, voire déconseillé de se rencontrer en ce moment, en cette période de confinement. Pour les AA, le confinement, ça veut dire plus de réunions. Comment vous gérez ça? Comment ça se passe?
Non, en fait, alors, ça m'a même assez sidéré parce que bon, j'ai travaillé dans beaucoup de multinationales à des postes assez élevés. J'ai vu des fois notre incapacité à organiser des choses. Et là, je suis assez sidéré de voir comment le mouvement, dans un élan de se porter par quelque chose d'assez incroyable, a réussi à mettre en place, alors avec nos moyens de bord, nos connaissances, bien entendu, il y a certains d'entre nous qui ont des petites affinités avec les technologies, mais on a fait des conférences en visioconférence qui fonctionnent très très bien. Donc maintenant, n'importe quel membre des AA en France a de quoi se régaler pratiquement tous les jours. Donc même si, et surtout en ce moment où il y a un problème effectivement de solitude pour certains, il est tout à fait possible d'assister à des réunions pratiquement plusieurs fois par jour, 7 jours sur 7.
Ça a évité, selon vous, ça a évité à des gens de dégringoler ces visio-réunions?
Ah oui, tout à fait. On sent qu'il y en a qui ont pu exprimer leur détresse et j'ai été très très impressionné de voir des membres plus anciens que moi qui ont réussi à maîtriser non seulement un petit peu le fait que ça se passe, quand on a quelqu'un qui s'effondre ou qui est en grande détresse, arriver à maîtriser, à continuer la réunion sans que ça part. C'est très bien fait. Effectivement, j'ai vu à quel point les gens étaient très reconnaissants du fait d'avoir cette possibilité, effectivement, oui. Je me sens pas du tout détaché. On reste très fortement soudés et liés en ces moments.
Et vous, à titre personnel, Nicolas, quand vous avez compris qu'on s'engageait dans un tunnel de confinement, de solitude parfois, est-ce que vous avez eu peur, pour vous aussi, éventuellement, de retomber dans d'anciens travers?
Non, absolument pas. Je suis à bientôt 2 ans d'abstinence et je me sens absolument pas du tout préoccupé par la question de l'alcool en ce qui me concerne, mais plutôt par la crise économique.
Bienvenue.
Bonjour,
tu m'entends, je t'entends.
Oui, oui.
Nous entendons.
Oui, oui, on s'entend.
Bonjour, Joël.
Salut, Philippe.
Bonjour, Aurélie.
Oui.
Ah, mais voilà Didier.
Bonjour, Didier. Salut, Suzy.
Bonjour, Nicolas.
Voilà. Alors, Nicolas.
Parce qu'il porte un masque, il ne veut pas qu'on le voit.
C'est ça. Tu as tout compris.
Bonjour.
Bonjour, José.
Salut, Jean-Claude.
Salut, vous m'entendez?
Ouais, ouais. Je t'entends.
Très bien, ta recette là pour désinfecter le masque.
Pour désinfecter quoi?
Les masques. Plutôt que de les laver à 60 degrés, comme le docteur me préconise, 9 fois sur 10, ça bousille tous les élastiques. Il suffit de faire bouillir un peu d'eau dans une casserole et mettre son masque, le tendre comme ça au-dessus pendant 10 minutes, quoi, tout péter.
Comment allez-vous tous?
Bien.
Bien.
Salut, bien. Joël.
Salut, Jean-Claude. Bon, on va commencer, il est 14h30. Je m'appelle Joël, je suis alcoolique. Donc, Suzy gère les micros. C'est-à-dire qu'ils seront coupés, sauf bien entendu lorsque vous aurez la parole. La réunion d'aujourd'hui, c'est la réflexion quotidienne du jour, du 4 mai, qui s'intitule « Parfaitement honnête ». Voilà, elle s'affiche à l'écran, je vais la lire en même temps que vous la voyez. « Nous devons être parfaitement honnêtes avec quelqu'un si nous voulons vivre longtemps ou heureux ici-bas ». Marilyn.
Je m'entends là.
Ah oui, là, c'est bon. Là.
Ouais, bonjour les amis. D'abord, je tiens à m'excuser pour mon retard, mais j'avais des problèmes de connexion avec mes nouveaux écouteurs ultra design qui en fait fonctionnent mal. Enfin bref. Moi, j'ai tous les thèmes qui tombent en ce moment, moi, ils me correspondent parfaitement. La parfaitement honnête, c'est la rigoureuse honnêteté. Moi, j'ai avoué ce matin à ma marraine que j'aime pas ce mot rechute parce que je sais même pas si je suis en rechute, c'est que j'ai rebu hier après 18 jours d'abstinence et au bout de 9 ans d'abstinence que j'ai cassé il y a quelques mois. J'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal à lui avouer que j'avais rebu. Très peu parce que ma rechute de quelques mois, elle est pas extraordinairement grave dans la mesure où je suis pas dans des blackouts, où j'ai pas perdu la maîtrise de ma vie, où je fais pas n'importe quoi, je continue à avoir une vie parfaitement réglée et équilibrée entre guillemets, sauf que j'ai depuis plusieurs semaines ce besoin, ce désir d'alcool qui s'amplifie. Parce que l'alcoolisme est une maladie, et c'est une maladie progressive. Donc là, je sais que je peux être à une ou deux canettes de bière de temps en temps, mais je sais que dans quelques mois, si je ne fais pas quelque chose maintenant, et si je ne le fais pas rapidement, je vais très certainement retourner à ma consommation d'il y a 11 ans, et qui était une catastrophe. J'étais au bord du gouffre, hein. C'était le suicide ou Léa. J'ai choisi Léa. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Marilyn. Alors, qui veut s'exprimer? Marc?
Ouais, moi, je pense avoir été peut-être trop honnête dans la mesure où j'avais 8 ans et demi d'abstinence et que je vivais très très mal. Je pense avoir été honnête en disant à chaque fois ce que je ressentais en bien et en mal, toutes mes craintes, toutes mes peurs. Et je pense que ça m'a joué un très mauvais tour puisque il y a un peu plus d'une semaine, j'ai rechuté assez sévère. Donc, tout le monde sait dans mes partages que si j'ai arrêté de boire, c'est par peur. Peur d'avoir mal en mourant parce que j'ai jamais voulu arrêter de boire, mais j'avais peur parce que j'ai failli mourir. Donc ma première étape, je pense que je l'avais bien comprise en me rendant au AA. Voilà, alors j'ai eu un premier miracle, j'en espère un second. Pourquoi j'ai rechuté, j'en sais rien du tout. Toujours est-il qu'il faut que j'arrête parce que j'ai quand même peur. Et puis, ben, je compte sur vous. Je ne sais pas si vous aurez encore le courage. Je le pense vraiment parce que je remercie tous les amis qui me soutiennent dans cette épreuve qui est excessivement difficile.
Ce sont les traditionnels soucis de la visioconférence. L'image se fige, la connexion coupe. Marc ne finit pas son témoignage.
Eva, qui est apparemment uniquement sur le mode audio, si j'ai bien compris.
Oui, bonjour les amis. Bonjour Eva Alcoolique. Oui, j'ai pas mis la vidéo parce que bon, je pourrais dire que ma vidéo marche pas, mais en fait, j'ai une sale tête. Voilà, donc je suis venue un petit peu en retard à la réunion. Ça me fait beaucoup de bien d'écouter ces partages sur l'honnêteté parce que j'ai beaucoup de mal à être honnête. Mais surtout avec moi-même. Donc, il faut que je comprendrais vraiment que je suis alcoolique, que je suis malade. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Et voilà, c'est déjà, ça passe par moi l'honnêteté. Et puis, effectivement, j'entendais quelqu'un qui disait que c'était pas la peine forcément de raconter tout ce qui s'était passé dans l'alcool à ses proches, etc. Moi, il m'est arrivé tellement de trucs abominables que je raconte pas tout, sinon ça serait désespérant. Voilà, et puis j'en ai pas besoin, ça n'apporte rien à mes enfants de savoir tout ce qui s'est passé. Ils en connaissent déjà une bonne partie. Voilà, je préfère qu'ils me voient bien et puis que je leur fasse plus de mal et surtout que j'en fasse plus à moi-même. Voilà, merci beaucoup pour la réunion et merci pour les partages.
Merci Eva. Fais beaucoup de réunions, Eva. C'est un conseil que tu as certainement déjà entendu et petit à petit, ça va se faire. Voilà, bon courage.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir,
votre
24 heures.
Au revoir, les amis. À une prochaine.
Au revoir, Simone.
Au revoir, Didier.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir, aussi.
Au revoir, les photos. Au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir.
Il y a des moments très importants dans la vie des alcooliques anonymes. Ce sont les anniversaires. Anniversaires d'abstinence, évidemment, vis-à-vis de l'alcool. Et ce soir-là, c'est celui de Suzy qui va être célébré. Suzy, c'est un peu le pilier du groupe de Neuilly. 36 ans sans alcool. C'est toujours en visio que le groupe se réunit car à ce moment-là, nous sommes en septembre 2020 et la situation sanitaire ne s'éclaircit pas. Donc le contact entre alcooliques anonymes reste numérique. Vanessa Descoureaux est de nouveau conviée à ces réunions virtuelles.
Alors là maintenant, il est 19h30 précise, donc c'est parti mon kiki et on va vous couper les micros.
Toutes les réunions des alcooliques anonymes commencent à l'heure pile, donc 19h30, ça commence et il y a 27 personnes qui sont connectées.
Cette année, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, ça se fait comme ça, en ligne. Et ça m'a donné l'occasion aussi de pouvoir convier des gens qui ne sont jamais venus parce qu'ils sont loin. Il y a des amis de Bretagne, il y a des amis de... il y a ma cousine d'Israël, il y a des amis de Bruxelles qui est ma ville natale, donc j'ai des amis d'enfance là-bas. Et pourquoi pour moi c'est important de les avoir là? C'est toujours la même histoire pour moi. L'important c'est de transmettre parce que moi je vais vous dire un truc du fond de mon cœur. Moi si je viens en alcoolique anonyme, c'est pas pour aider les autres, c'est à moi que ça fait du bien. Si ça aide les autres, eh bien, tout le monde est gagnant. Mais c'est quand je sors d'une permanence téléphonique, comme on a des permanences de temps en temps, et que j'ai eu quelqu'un au téléphone que je n'ai jamais vu, que je ne verrai jamais, et qui décroche le téléphone en pleurant, qui le raccroche avec « j'entends son sourire », bah ça me donne des ailes et ça me fait du bien à moi. Nos réunions sont pas des psychothérapies, quoi. C'est réellement une école de vie. L'humilité, la tolérance, la sincérité, un peu de courage, la patience, ce sont des choses que nous travaillons parce que ce sont des choses qui nous font du bien. Et quand je me fais du bien, eh ben j'ai pas envie de boire, quoi. Je n'ai plus besoin de me faire du mal pour me faire du bien. Je crois que la vie, c'est quelque chose de difficile, Mais tant qu'à faire, si elle est...
Suzy parle, mais elle ne se rend pas compte que dans son dos, des proches arrivent avec un cadeau d'anniversaire. Ça y est, elle sent.
Je sens derrière moi ma petite famille qui se pointe avec mon gâteau parce qu'ils étaient à l'écran, mais ils sont là.
La famille est là.
Je vous présente Samuel,
le petit-fils,
15 ans. Voilà.
Et Suzy qui souffle les bougies de manière virtuelle, certes, mais on assiste à ça.
Il faut du souffle.
Les applaudissements de la famille derrière elle.
On n'est pas sans souffle, on brasse.
Ah, bah, c'est merde.
Voilà, merci, mes amis. À table.
Merci de m'avoir permis de modérer.
Merci, Nico.
Merci, Patrick. Merci pour la modération.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire encore.
À bientôt.
Suzy,
à bientôt. À bientôt.
Bon anniversaire. Au revoir. Merci encore.
Bon, je mets fin à la réunion.
D'accord.
C'est ça, c'est un peu brutal, mais c'est, voilà, c'est la loi du pied.
Auprès des alcooliques anonymes, c'était un reportage de Vanessa Descoureau. Vanessa a reçu pour ce reportage le prix argent du Grand Prix du magazine Stratégie. Hélène Bisio était à la réalisation, assistée de Martine Messonnier. Mixage, Benjamin Orgeret.